Bonsoir.
Lisons dans le Saint-Livre, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12. Luc, chapitre 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Amen. Un petit peu avant, dans l'Évangile, au chapitre 10, Jésus avait envoyé les apôtres exercer leur ministère. Ils sont revenus et au chapitre 10, ils sont vraiment heureux. Ils sont vraiment heureux parce que regardez, Luc chapitre 10, verset 17, ils sont heureux parce qu'ils ont vraiment vécu quelque chose au niveau spirituel. Les 70 revinrent avec joie disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Alors Jésus, regardez ce qu'il leur répond au verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Donc, est-ce que c'était bien que les apôtres, ayant obéi, aient fait de belles expériences avec le Seigneur? Est-ce que c'était bien? Comment vous la trouvez la réponse du Seigneur? Jésus presque les refroidit. Il dit non, 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 ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça fait quand même réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans la vie, on peut avoir du résultat. On peut avoir du résultat par rapport à un service que l'on accomplit pour Dieu. Et c'était bien. Jésus aurait pu dire, c'est bien, vous avez travaillé, c'est bien. Mais il veut expliquer qu'il y a quelque chose de plus important que de servir. Et de servir efficacement. Il leur explique qu'il y a quelque chose de merveilleux, de plus grand que de servir Dieu. C'est celui d'être sûr que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Sur la terre, il y en a des livres. Vous en concoctez des livres pour vos études, même si ce n'est pas médecine, mais vous en faites des livres, non? Vous en avez lu des livres? Il faut des livres pour tout, il faut des papiers pour tout. Quoi que ce soit que vous fassiez, il faut toujours des papiers pour tout. Quoi que ce soit que vous fassiez, il faut toujours et toujours des papiers. Eh bien, dans le ciel, il y a un livre. Je ne sais pas comment il est. Est-ce que c'est un livre comme les nôtres? Est-ce que c'est un rouleau? Est-ce que c'est un méga ordinateur? Je ne sais rien. En tous les cas, une chose est sûre, dans le ciel, il y a un livre. Et sur ce livre, des noms sont inscrits ou pas inscrits. Ou même, ils peuvent être effacés. Puisque Jean, dans l'Apocalypse, reçoit... On peut le lire, hein? Vous avez votre Bible. Dans l'Apocalypse, je crois que c'est au chapitre 2. Il y a une église que Dieu met en garde. Il dit, fais attention. Jean chapitre... Enfin, Apocalypse chapitre 2. Si je ne me trompe pas. Non, c'est 3, pardon. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Il parle à une église qui a des défauts, des qualités. Et il demande à ses chrétiens de veiller. De veiller tant qu'elle bute. Alors Apocalypse 3, verset 5. « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Quelle grande bénédiction. Ce sont des choses qui nous dépassent. Mais en fait, une chose est sûre, c'est que dans le ciel, il y a un livre. Dans toutes les églises du monde, il y a des registres. Ils sont plus ou moins bien tenus. Ici, c'est pas le cas de ce qui soit bien tenu. Mais dans toutes les églises, il y a des registres. Et quand quelqu'un est baptisé, Il est inscrit sur le registre de l'église de telle dénomination, tel jour, monsieur un tel a pris le baptême et s'est engagé en acceptant Jésus-Christ comme sauveur et son Seigneur. Voilà. Ça, c'est dans le registre de telle église. Je suis enregistré. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que parce que quelqu'un est baptisé, il est forcément sauvé? C'est une question, c'est une bonne question. Les stagiaires, des fois, ils vous posent des questions qui sont justes, mais moi, c'est des bonnes questions. D'accord? Non, mais c'est quand même une bonne question. Il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils sont inscrits dans le registre d'une église, ils sont sauvés. Non, ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est la repentance qui sauve. Il y a des gens qui demandent le baptême. Ils demandent le baptême parce qu'ils ont fait une expérience. Ils sont venus, ils étaient malades, ils avaient vraiment des problèmes difficiles, ils ont été guéris. Moi, je me souviens, mon propre frère, avait deux difficultés sévères. Et il est venu à l'église, on a prié pour lui, son fils a été guéri, sa femme a fait une expérience, c'était clair, c'était surnaturel. Et quelques mois après, il a dit, je veux me faire baptiser. Et le pasteur n'a pas demandé pourquoi. Moi, je demande aux gens pourquoi ils veulent se faire baptiser. Ah bon, vous voulez faire baptiser? Bien, on vous baptise. Il a baptisé mon frère, mais mon frère avait pris le baptême, pas pour s'engager avec Dieu. Il avait pris le baptême pour remercier Dieu. C'était, pour lui, c'est une façon de remercier Dieu. Mais si vous voulez remercier Dieu, comme je le dis souvent, ben, dites-lui merci. Ça suffit. C'est pas la peine de prendre le baptême pour remercier Dieu. Et bien sûr, mon frère, quelques mois après, a abandonné Dieu parce qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas réglées dans sa vie. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le baptême qui sauve. Ce qui sauve, c'est la repentance. C'est pour ça qu'il faut prendre ce sujet avec beaucoup de sérieux, même à des apôtres. Vous voyez, les apôtres, quand ils sont revenus de mission, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. C'est vraiment le top de la spiritualité. Quand vous priez et que les gens sont délivrés des ténèbres, ça arrive que les gens soient ténébrés. On le voit, hélas. Il y a des gens qui viennent, ils ont fait du spiritisme, ils ont fait de la méditation transcendantale, ils ont fait des choses qui les connectent à la puissance de l'ennemi, ils ont commencé à prier les morts, ils ont été voir des voyantes, etc. Et petit à petit, ils se sont attrapés des démons. Alors ça fait rire certains, mais quand ils y sont dedans, je peux vous dire qu'ils rigolent plus. Donc il y a des gens, de tout temps ça a existé, il y a des gens qui ont besoin d'une délivrance. Mais Jésus dit non, ne vous réjouissez pas de ça. Parce que le résultat, premièrement, il y en a, des fois il n'y en a pas. Est-ce qu'on a toujours du résultat? Non, on n'a pas toujours du résultat. Donc, le résultat, ça va, ça vient. Mais tandis qu'il y a quelque chose qui est permanent, c'est la joie d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Ça, c'est pas le registre de l'église évangélique, ou de l'église baptiste, ou de l'église protestante, de l'église catholique, n'importe. C'est pas l'église qui sauve, c'est pas la religion qui sauve. Les gens sont choqués quand je dis ça parfois. Est-ce que Jésus a institué une religion, des religions? Vous savez combien il y a de religions dans le monde? Je suis sûr que personne n'est capable de me le dire, tellement c'est époustouflant. Est-ce que vous savez combien de religions il y a dans le monde? Alors, je ne les ai pas comptées, c'est des statistiques que j'ai pu lire. Plus de 10 000. Est-ce que vous vous rendez compte? 10 000 religions. Est-ce qu'il y en a une qui sauve? Non, aucune. Le Seigneur, il a institué aucune religion. C'est les hommes qui ont institué les religions. Après, il y a des dénominations où on prêche la parole, mais Dieu est béni pas une dénomination. Dieu est béni le livre, sa parole. Et si on prêche sa parole, Dieu est béni. Mais c'est pas une église qui sauve, c'est pas l'église évangélique qui sauve, c'est pas l'église catholique qui sauve. Dieu n'a pas institué la religion, Dieu a donné son fils, il a donné sa vie au calvaire pour que les hommes soient sauvés. On l'a chanté, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Et ça, c'est où ça? C'est pas suffisant? 12, ça va. Acte 4, 12. Voyez? Et on est sauvé, c'est Jésus qui sauve. On est sauvé par la grâce. C'est pour cela que c'est pas le fait de servir Dieu qui détermine exactement notre position spirituelle. C'est le fait de vraiment l'avoir accepté. Et quand Jésus prend cette parabole par rapport à cet homme qui a osé l'interrompre alors qu'il était en train de prêcher, il fallait le faire, hein. Vous auriez osé, vous, interrompre Jésus alors qu'il était en train de prêcher? Moi, franchement, j'aurais pas osé. Et voilà, paf, quelqu'un qui était certainement en souffrance par rapport à un héritage. Vous savez, les héritages dans les maisons, c'est pas toujours facile. Il dit à mon frère, il avait compris l'autorité de Jésus, qui avait un pouvoir, certainement, par la parole, etc. Dit à mon frère de partager notre héritage. Parce qu'il y avait un problème. Les héritages, c'est vrai que ça partage pas mal, ouais. Et Jésus dit, mais c'est pas, moi je suis pas là pour être votre juge. Pourtant, est-ce que Jésus un jour sera juge? Voyez, il dit, je n'ai pas été établi pour être votre juge. Mais pourtant. Alors Jésus, il y a trois ministères, en fin de compte. Il y a le ministère de sauveur. Quand il est venu en tant que sauveur. Quand il est mort sur le bois de la croix, il est venu en tant que sauveur. C'est le rédempteur, comme on l'a chanté. Il est venu comme sacrifice, comme agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Quand il est remonté au ciel, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est Jésus? Il est souverain sacrificateur. La Bible dit qu'il intercède pour nous, en faveur de nos péchés. Il prie pour nous. Peut-être que vous n'y pensez pas. Des fois, vous dites, monsieur, priez pour moi. Mais la Bible dit que le Seigneur, il intercède pour ses enfants. Donc aujourd'hui, Jésus est dans le ciel, assis sur son trône, mais il est dans le rôle du souverain sacrificateur. C'est un peu compliqué pour ceux qui viennent pour la première fois, mais c'est facile à comprendre quand on connaît la Bible. Et un jour, il reviendra, mais là, il ne sera pas ni sauveur, ni sacrificateur, ni souverain sacrificateur. Il reviendra en tant que Seigneur des Seigneurs. Et c'est là qu'il sera le juge de toute la terre. C'est pour ça qu'il faut se préparer à le rencontrer. Et le Seigneur donne cette parabole à cela. Écoute, tu vois, je vais t'expliquer quelque chose. Un homme avait travaillé, il avait super travaillé, il avait beaucoup récolté. Est-ce que c'est bien de bien travailler, de gagner des sous? Tiens, au fait, est-ce que c'est bien de gagner beaucoup d'argent? Ben ouais, c'est pas. Est-ce que c'est un problème? L'argent, c'est pas un problème. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? C'est où ça? C'est écrit où? C'est qui a dit ça? L'amour de l'argent? Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, l'argent, c'est un problème. Je dis, non, c'est pas l'argent. C'est l'amour de l'argent. L'argent en soi, c'est pas un problème. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est dans Timothée. Donc Jésus dit, explique, et mais il lui dit, voilà, les hommes, ça, il avait beaucoup rapporté, et Jésus ne dit pas insensé parce qu'il avait bien réussi. Tant mieux qu'il y en ait plein de gens qui réussissent. Mais c'est parce qu'il s'est trompé. Il a dit, vous avez vu dans la parabole? Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, réjouis-toi. Et Dieu lui dit, mais tu, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Nous avons un corps. Vous avez réalisé que vous avez un corps? Un corps. Nous avons un esprit. Un esprit qui est mort lorsqu'on n'accepte pas Jésus, tant qu'on n'a pas accepté Jésus. Mais nous avons aussi une âme. Et cette âme, elle ne nous appartient pas. Nous, on croit qu'elle nous appartient, mais elle ne nous appartient pas. Vous avez une voiture? Elle vous appartient, la voiture? Oui? Est-ce que vous avez une voiture? Une maison? Est-ce que vous avez une maison? Non, vous dormez dans la rue tous? Non, mais vous avez, il y a plein de choses qui elles sont à vous. Vous les avez achetées, elles sont à vous. Oui ou non? Mais votre âme, notre âme, elle ne nous appartient pas. Dieu peut nous reprendre quand il veut. Et c'est ce qu'il est en train de dire ce jour-là où cet homme, lui, était préoccupé par les biens matériels, ce qui n'était pas forcément mauvais en soi. Mais c'était pas le moment. C'était pas le moment. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'occuper certainement de ses affaires terrestres, temporelles. Mais il faut pas oublier de s'occuper de son âme. Dieu ne nous reprochera jamais de bien nous occuper de tout ce qui est temporel. D'ailleurs, il y a un verset qui dit rendez à César ce qui est à César. C'est Jésus qui l'a dit. Non, Marc 12. Vous êtes renvoyé les stagiaires. Dans Marc chapitre 12, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'ailleurs, c'est dans un contexte bien particulier où justement des Sadducéens. Alors voyez comment les gens sont tordus. La religion commençait tordue. Les Sadducéens. On va le lire. C'est dans Marc chapitre 12. Mais ça vaut la peine vraiment. Ça vaut la peine de voir combien la religion, elle est tordue. Toute, hein. Même la nôtre, s'il n'y a pas la grâce de Dieu. S'il n'y a pas la grâce, tout ça sert à rien. Les gens, ils sont choqués parfois quand je leur dis, mais la religion, ça sert à rien. Tout ce que l'homme fait, ça sert à rien. Il n'y a qu'une chose qui sert, c'est la grâce de Dieu. Et ce soir, vous êtes heureux si vous pouvez dire, moi, je veux la grâce de Dieu. Si vous avez la grâce de Dieu, vous êtes heureux parce que vous n'avez pas une religion, mais vous avez un sauveur. Regardez ce texte. Parce qu'on parle de la résurrection, on parle de l'importance d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Les Sadducéens, vous savez, c'est juste au-dessus que Dieu a dit rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il y a les choses terrestres et il y a les choses spirituelles. Il y avait des Sadducéens. Les Sadducéens, c'est toute une religion. Alors regardez bien, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Regardez bien, la doctrine des Sadducéens, ils ne croient pas à la résurrection. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme, sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et chacun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection !» Vous avez vu la bêtise? Comme quoi, à force de pousser l'incrédulité, on finit par dire des bêtises. Ils ne croient pas à la résurrection, mais ils posent une question sur la résurrection. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eu pour femme. Jésus leur dit, vous n'êtes pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Donc, vous voyez, il y a plein de textes dans la Bible qui indiquent qu'il y a la vie sur la terre, mais qu'il y a la vie dans l'éternité. Et qu'il faut se préparer. Que c'est une affaire sérieuse, que c'est quelque chose de solennel, surtout qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus viendra nous reprendre. C'est pour ça que Jésus dit à cet homme insensé, c'est une parabole, mais les paraboles ont la particularité d'utiliser des images terrestres que nous on peut comprendre pour expliquer des vérités spirituelles. C'est ça le but des paraboles. Je faisais un rassemblement de jeunesse il y a quelque temps de ça, et il y avait plein d'enfants. Et j'ai dit, c'est quoi une parabole? Il y a un gosse qui se lève, monsieur, c'est une antenne. Il m'a fait rire parce que le gosse, je dis, non, c'est pas ça. Dans la vie, une parabole, ce sont des images terrestres pour expliquer des vérités spirituelles. Et une parabole, ça indique des vérités profondes. Quand Jésus dit, mais insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et il faut penser à ce jour où notre âme nous sera redemandée. C'est sérieux, Dieu ne nous oblige pas, il ne nous force pas, il ne force personne, mais il faut que nous sachions que nous devons nous préparer à rencontrer Dieu. Il y a des dizaines de textes sur la résurrection. La Bible parle de ceux qui sont heureux, ceux qui participeront à la résurrection des justes. Voilà. Heureux ceux qui participent à la... Parce qu'en vérité, enfin, c'est plus compliqué que ça, mais pour le simplifier, il y a deux résurrections. Il y a la résurrection des justes et la résurrection des injustes. La résurrection des justes, elle aura lieu avant les tribulations, elle aura lieu avant le millénium. C'est un moment particulier. On peut le lire, le texte, hein, on peut le lire. Vous savez, si vous prenez tous les textes sur la résurrection, ça vous fait réfléchir. Je vous le dis, c'est où ça? Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 6. Et dans l'Apocalypse, quand Jésus se révèle, il dit bien, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors ça, c'est pour la preuve que la première résurrection a lieu avant le millénium. C'est 1000 ans de paix qu'il y aura sur la terre. La première résurrection. Assisterez-vous à la première résurrection ou ferez-vous partie du deuxième voyage? Si vous faites partie du deuxième voyage, c'est pas bon signe. C'est dans le même chapitre d'ailleurs, au chapitre 11, c'est ce qu'on appelle communément le jugement dernier, où il est parlé justement de ce jour. Apocalypse chapitre 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, ce qui se tenait devant le trône. Des livres furent ouverts. » Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Vous voyez, ces choses-là, elles font rire beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous faites partie de ces gens qui riaient de ces choses solennelles, éternelles. Moi, je vous conseille de ne pas rire de ces choses et d'y réfléchir et de prier. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, montre-moi. Oui, là, pour beaucoup de gens, la vie, ça s'arrête, même pour beaucoup de religions. Vous voyez, les Sadducéens, ils croient pas à la résurrection, mais ils veulent, en vérité, s'ils ne croient pas à la résurrection, mais qu'ils parlent à Jésus de résurrection, c'est qu'ils veulent coincer Jésus. Comme souvent les religieux l'ont essayé de le faire, ils ne supportaient pas la vérité, ils ne supportaient pas la parole de Jésus, et tout le temps, ils étaient en train d'essayer de le coincer. On ne cherche pas à coincer Dieu, c'est ridicule. Ça fait vraiment partie d'un aveuglement terrible. Les choses de Dieu, elles sont solennelles. Votre nom, il est inscrit dans le livre de vie où il n'y est pas inscrit. Et c'est de mon devoir, ce soir, de vous dire, votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie? Je suis catholique, est-ce qu'il faut que je devienne baptiste? Ou je suis évangélique, est-ce qu'il faut que je devienne pentecôtiste? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non! Il vous faut pas avoir une religion. Il vous faut vous repentir et donner votre vie à Jésus-Christ. Je le répète, c'est pas votre religion qui va vous sauver, c'est pas les évangéliques qui vont vous sauver, c'est Jésus qui vous sauvera. La Bible est catégorique, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Et moi, des fois, j'ai du mal, parce qu'il y a des gens qui viennent, le pasteur a dit aux jeunes, vous savez, ça arrive dans les églises, prenez le baptême, jeune homme. Quel âge tu as? 17 ans. Ça fait longtemps que tu viens à l'église? Eh bien, je viens depuis tout petit avec ma maman. Ah, ben tu aimes Jésus? Ben oui, ben ça serait bien que tu prennes le baptême. Alors le gars, ben je prends le baptême. Voilà, puis après, moi, les gens, ils arrivent, ils viennent faire leurs études à Toulouse. Alors je dis, voilà, vous avez pris le baptême? Oui. Pourquoi tu as pris le baptême? Parce que le pasteur, il m'a dit de prendre le baptême. Mais tu es sauvé? Ben je suis pas... J'ai pris le baptême, mais les gens ne se sont pas repentis. Ils continuent à pécher. Il y a des jeunes, ils arrivent, ils continuent à galoper dans le péché, mais ils vont à l'église et ils sont baptisés et on les a trompés. Et nous, les pasteurs, il faudra qu'on rende compte pour ce genre de drame qu'on a provoqué soi-même. Pourquoi? Parce qu'on voulait faire des baptêmes dans l'église. On n'est pas payé au baptême. Dieu nous demande de prêcher la vérité. Et si quelqu'un se repent, il est sauvé. Parce que quand quelqu'un se repent, c'est ce qu'on a chanté, tu peux naître de nouveau. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Vous avez vu ce texte, le dernier texte qu'on a lu? Il nous prouve que les œuvres ne nous sauvent pas. Est-ce que c'est bien de faire des œuvres? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous aimez faire des œuvres? Est-ce qu'il faut faire des œuvres? Oui. La foi sans les œuvres, elle est morte. Jacques dit, la foi sans les œuvres, elle est inutile. Un chrétien qui ne fait pas d'œuvres, il y a un gros, gros, gros problème. Une église qui ne fait pas d'œuvre, il y a un sérieux problème. Mais ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Les œuvres, elles nous suivent. Les œuvres, c'est important. Mais elles ne nous sauvent pas. Par contre, on a besoin de faire des œuvres. Est-ce que c'est bien que nous nous occupions de vous avez vu tout ce qu'on a fait en Afrique avec M. et Mme Bordeneuve? Est-ce que c'est bien tout ce qu'on a fait? Ben ouais. Apocalypse chapitre 14, verset 13. J'entendis du ciel une voix qui disait, écris. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres, les suivent. Oui, c'est merveilleux. Quand on fait quelque chose pour Dieu, c'est enregistré. Ça a de la valeur, c'est important. Dieu veut la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Pourquoi? Mais parce que la croix, elle nous confronte à notre péché. Vous pouvez parler des rouges-gorges, des rossignols, tout ça que Dieu a créé. Bon, ça vous culpabilisera pas. Mais dès que vous parlez de la croix, ça vous met face à votre péché. Mais Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a versé son sang pour nous sauver. Il n'y a pas besoin de faire des œuvres, même si on ne pourra pas ne pas en faire parce qu'on aime le Seigneur. Mais on est sauvé par grâce. Par grâce, tout simplement. La religion ne vous sauvera pas. Ne vous mettez pas en tête que votre religion va vous sauver. Et ni la nôtre. Vous irez au ciel et dans les cieux. Je sais pas comment ça se passe parce que c'est quand même particulier. Il y a quelqu'un qui écrit les noms ou qui en efface. Parce qu'un chrétien qui abandonne Dieu peut, hélas, voir son nom tout à nouveau effacé de ce merveilleux livre. C'est sérieux la vie avec Dieu. C'est sérieux. C'est merveilleux, mais c'est sérieux. Et quand vous lisez toute la parole de Dieu, là on a lu quelques textes, mais ces quelques textes nous indiquent qu'il faut être sérieux, parce que notre vie ne nous appartient pas. Notre âme ne nous appartient pas. Dieu peut nous la redemander. Il y a des gens qui font, oh, je suis malade, monsieur, je vais mourir, je suis malade. Je dis, mais c'est pas parce que vous êtes malade que vous allez mourir. Est-ce que parce que quelqu'un est malade, obligatoirement il va mourir? Est-ce que parce que quelqu'un est en bonne santé, est-ce qu'il va vivre? Même si on a besoin de bons docteurs qui nous soigneront, il n'empêche qu'on peut... On peut mourir en étant en très bonne santé. Je me souviens de ce jeune, parce que quand je parle de ce sujet, je travaillais, quand j'ai arrêté les boîtes de nuit pour travailler, je travaillais pour l'EDF, et un jour, j'avais 22 ans, je me rappelle. J'avais 22 ans et on chargeait une grosse tarière, ça faisait presque 100 kilos, avec un jeune, il était pareil, 22 ans, tout bouclé, il était tout en pleine forme, il était beau comme un cœur et tout ce que vous voudrez. Donc puis on charge la tarière dans la voiture, de ces grosses voitures, et il me dit « qu'est-ce que tu fais dimanche ?» Eh bien, moi, dimanche, je vais à l'église. Et il se met à éclater de rire, mais Je dis, tu vas à l'église? Il me dit, mais tu plaisantes? Je dis, non, je vais à l'église. Je n'étais pas pasteur à l'époque, mais tu rigoles, quoi. Toi, tu vas à l'église? Eh bien, écoute, et toi? Ah, moi, je vais en boîte de nuit, on va à Paris avec des copains, on va faire la fête. Tu ferais bien de la faire plutôt que d'aller dans une église. Écoute, si tu savais le bonheur que j'ai, tu comprendrais pas. Bon, il me dit, écoute, bon week-end. Et on se sépare. Je l'ai connu, ce gars, 10 minutes. Et le lundi, je ne le vois pas. Le mardi, je ne le vois pas. Le mercredi, je vais au bureau. Je dis, mais je ne me rappelle plus son prénom. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant? Il a pris une cuite. Il s'est étouffé dans son vomi. On l'a retrouvé mort dans la rue, à côté d'un bar. Et j'avais pris le temps de lui parler. Je vous assure, moi, j'aurais jamais pu penser qu'un gars à 22 ans parte dans ces conditions. Et il en meurt combien comme ça? Alors, c'est pas pour faire peur. Parce que ça serait stupide. Je me demande bien si Dieu bénirait un message ou on ferait peur aux gens. Mais une chose est sûre, notre vie ne nous appartient pas. Il y aura deux résurrections. La résurrection des justes, la résurrection des injustes. Les justes, c'est la preuve que leur nom a été écrit dans le livre de vie. Ils ont accepté le sang précieux de Jésus-Christ. On est sauvé par le sang précieux de Jésus-Christ. Et je vous assure, convertissez-vous. C'est ce qu'on a chanté, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, tu peux repartir à zéro. Quelle grâce. Et la Bible parle, vous voyez, on peut lire pour terminer ce texte sur le salut. Un des textes sur le salut, c'est l'apôtre Pierre au chapitre 1er et au verset 18 qui explique comment on a été sauvé, par quoi on a été sauvé. 1 Pierre, chapitre 1er, on va lire le verset 17. On va lire du verset 17 jusqu'au verset 23. Et si vous invoquez comme père celui qui est juge, selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte, c'est-à-dire avec respect, pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et qui lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifiez vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Donc, verset 19, par le sang précieux de Christ. Précieux, ça veut dire qu'il y a du prix. L'or et l'argent, ça n'a pas de prix au niveau spirituel. Ce qui a de prix, le sang précieux, c'est parce que le sang, il a le pouvoir de vous sauver. C'est un acte de foi, il faut être presque, comment dirais-je, naïf, on pourrait dire. Et la Bible dit que Dieu, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie, de quoi? De la prédication. Le sang de Jésus qui peut me sauver. Eh bien oui. Si vous voulez aller au ciel, ne devenez pas pentecôtiste ou évangélique ou protestant, ça m'est égal. Recevez le sang précieux de Jésus-Christ. Acceptez-le. C'est comme ça qu'on est sauvé. Voilà, ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle la dispensation de la grâce. C'est comme ça. Et si un jour vous allez au ciel, c'est pas uniquement vous aurez accepté que le Seigneur Jésus, qui est venu sur la terre dans 2 mois, même pas, on va fêter la naissance de Jésus. Et il sera ou votre sauveur, ou votre juge. Et son sang a coulé pour que Jésus soit votre sauveur. Alors acceptez-le. Soyez sérieux. Repentez-vous. Prenez votre temps. Lisez la parole de Dieu. Mais ce sont des choses sérieuses de se préparer à rencontrer Dieu. Quelqu'un me disait dernièrement, Dieu, il fera ce qu'il voudra. Qu'il choisisse. Mais j'ai dit, il a choisi déjà. Quand il est mort sur la croix, il a déjà choisi. Il a choisi de vous sauver. Alors on va fermer les yeux quelques instants. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, mais moi, je veux réfléchir à ces choses. Je veux méditer la parole de Dieu. On va demander au Seigneur sa grâce sur nos vies. Notre Père, Tu nous as laissé ta parole et tu as effacé, c'est vrai, tu as effacé tous les actes qui nous condamnaient. Pour que notre nom soit inscrit dans le livre, mon Dieu, que ton nom soit béni. De nous avoir appris ces choses, de nous avoir enseignées. Et c'est vrai, Seigneur, que nous voulons avoir part à la première résurrection, celle où les hommes régneront avec toi. Et si cela nous dépasse intellectuellement, nous savons que ces choses sont écrites pour notre instruction. Tu nous connais, Seigneur. Nous ne voulons pas, comme les apôtres, nous induire en erreur en glorifiant le service. Nous voulons tout simplement rester à l'abri sous ton sang précieux. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir versé ton sang au calvaire. Merci d'avoir répandu ton sang, d'accepter d'être crucifié pour que ton sang nous lave de nos péchés. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen.